Ah, merci, c'est gentil. Bonjour à tous, ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer. Ah, ça fait du bien de se retrouver ensemble. Alors, on va essayer. Ah, bah, super, ça marche, la technologie marche bien. Donc. Alors, on va continuer dans l'évangile de Marc, hein, pour ceux qui ont l'habitude de fréquenter cette église. Vous savez qu'on a une étude suivie de l'évangile de Marc. Alors, ce n'est pas toujours extrêmement régulier, mais on essaye d'être régulier pour donner un canevas, en fait, sur cet évangile qui est vraiment très important. Moi, j'aime beaucoup l'évangile de Marc parce qu'il est à la fois succinct, direct. C'est vraiment un journaliste qui raconte Marc. Il ne s'embarrasse pas de fioritures. Il est orienté étranger. Donc, il explique quand il y a des choses. Ce n'est pas comme Matthieu qui écrit aux Juifs. Et finalement, il y a beaucoup de richesse dans cet évangile de Marc. Donc la semaine dernière, c'est Colin qui a traité deux points très importants, qui sont la confession de Pierre et la transfiguration. Nous, on s'était vus au mois de décembre, souvenez-vous. On avait traité Jésus qui faisait une petite incursion à l'étranger. Depuis, il est revenu, il a guéri ce fameux aveugle avec tout un enseignement spirituel. Et puis, il a emmené ses disciples à Césarée de Philippe, c'est tout au nord d'Israël. Et il a posé cette question qui, à mon avis, est la question la plus importante de toute l'humanité. Et c'est la question la plus importante à laquelle vous aurez à répondre pendant votre vie. Que vous ayez une vie de 20 ans, de 40 ans, de 80 ans, de 90 ans, c'est la question la plus importante. Vous vous en souvenez de cette question? Qui dites-vous que je suis ? Qui dites-vous que Jésus est pour vous? Selon la manière avec laquelle vous allez répondre à cette question, à laquelle je vais répondre à cette question, moi j'y ai déjà répondu, la manière avec laquelle vous allez répondre à cette question va conditionner toute votre vie terrestre et votre espérance future dont on nous a parlé ce matin. Qui dites-vous que je suis? Posez-vous cette question parce qu'elle n'est pas aussi simple que ça. On va voir dans le texte d'aujourd'hui, on va voir le père d'un enfant qui est un peu flou sur le « qui dites-vous que je suis ?». Mais il va progresser parce qu'il va rencontrer le maître. Et quand on rencontre le maître face à face, le maître c'est Jésus, quand on rencontre le maître face à face, on peut changer sa réponse. Et je pense que dans votre vie, vous allez changer votre réponse. C'est ce qu'on appelle l'image de Dieu. Quelle image j'ai de Dieu ? Voilà. Donc, on était à Césarée de Philippe, et après, il a pris trois de ses disciples, Pierre, Jacques et Jean, il les a emmenés sur une montagne. Il s'est montré tel qu'il était, très brièvement. C'était la transfiguration. Et donc là, il va redescendre dans la plaine. Alors, je vais brancher, voilà. Normalement, ça doit être bon. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez la référence ici, Marc, chapitre 9, versets 14 à 29. Et je vous invite déjà à prendre cette référence. Aujourd'hui, donc, on redescend de la montagne, on revient dans la plaine, pour un événement particulier qui va encore nous enseigner. Et il va nous enseigner quoi? C'est que la victoire s'obtient par une foi qui est nourrie dans la communion avec Dieu. Je répète parce que c'est le point clé du message aujourd'hui. La victoire dans la vie chrétienne, dans notre vie de tous les jours, elle s'obtient par une foi qui est nourrie dans une communion intime avec Dieu. C'est vraiment le thème du jour. Et Jean Lionel a prié tout à l'heure dans ce sens, quand il a cité le psaume 27. Quand on s'appuie sur lui, il a dit, eh ben, tout est possible, tout l'espoir est possible. Et sans lui, disait Jésus lui-même dans Jean chapitre 15, le fameux passage sur le cep et les sarments, il disait, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous voyez, donc la victoire, elle s'obtient dans la communion intime avec Dieu. Elle ne s'obtient pas forcément en venant à l'église, elle ne s'obtient pas forcément en lisant sa Bible, elle ne s'obtient pas forcément en s'agenouillant chez soi, en priant. Elle s'obtient dans une relation intime. Ce n'est pas la même chose. Le faire des trucs religieux, ce n'est pas la même chose qu'avoir une communion intime avec Dieu. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et les disciples aujourd'hui vont l'apprendre douloureusement à leurs dépens. Et le sous-titre, je vous l'ai marqué ici, le titre, ils ont bien voulu, ils voulaient bien faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu. Et combien de fois dans notre vie chrétienne, on voudrait faire des choses et on ne peut pas. Voilà donc pour le thème du jour. Donc je vous invite tout de suite à ouvrir vos Bibles. Et puis on va lire le passage. Je vous l'ai affiché, elle est dans la seconde 21. Oh non, ça va pas se bloquer quand même. Si, c'est bon. Voilà. Moi, je vais lire dans la colombe. C'est trop petit. C'est un peu petit. Ah oui, c'est trop petit. Bon, ben justement, ça vous oblige à lire dans vos Bibles. Tiens, c'est bonne chose, excellente chose. Bon acte manqué. Alors, je lis à partir du verset 14. « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, » donc c'est Jésus avec Pierre, Jacques et Jean qui redescendent de la montagne. « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut très surprise et l'on accourait pour le saluer. Il leur demanda, « Sur quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils en qui se trouve un esprit muet. » En quelques lieux qui le saisissent, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'en ont pas été capables. Jésus leur répondit, race incrédule, jusque à quand serai-je avec vous? Jusque à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. On lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit le fit entrer en convulsion. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? « Depuis son enfance, répondit-il, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » Et il sortit en poussant des cris avec une violente convulsion. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs le disaient mort. Mais Jésus le saisit par la main et le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut rentré dans la maison, ses disciples l'interrogèrent en privé. « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. » Voilà, donc gardons en mémoire, hein, quand on étudie cet évangile de Marc, que l'un des objectifs principaux de Jésus, c'est de former ses disciples. Il est là pour les former. Et même s'ils ont été envoyés en mission en succès, hein, avec succès précédemment, il les a envoyés en mission, il leur a donné autorité de chasser les démons, ils sont revenus, ils étaient tout contents, ils voyaient Satan chasser, etc. Hein, je vous renvoie à Matthieu 20, à Matthieu 10, ça c'est le grand discours sur la mission de l'évangile de Matthieu. Mais les disciples, à ce stade, ils ont encore des choses à apprendre sur la foi. Et d'ailleurs, ce n'est pas la première fois qu'ils sont confrontés à cette notion de foi. Il y a eu les deux tempêtes sur le lac de Galilée, et puis il y a eu cette femme atteinte d'une perte de sang, c'est moi qui l'avais traitée, si vous vous en souvenez, et la résurrection de la fille de Jairus. Il y a eu l'épisode de la femme cananéenne qu'on a vu au mois de décembre. Donc ce n'est pas la première fois que les disciples sont confrontés à cette notion de foi. Et par le biais de Nasser, c'est lui qui fait le planning. Hein, et d'ailleurs, je te remercie, Nasser, pour ton fidèle ministère depuis 3-4 ans maintenant, de faire les plannings. C'est très ingrat, parce qu'il faut contacter les uns les autres. Les gens ne peuvent pas, ils sont occupés. Donc merci, Nasser, pour tout ce que tu fais pour l'Église et pour le planning. Voilà, donc par le biais du planning, il se trouve que c'est la troisième fois que je vais vous parler de foi aujourd'hui. Alors vous en avez peut-être marre d'entendre parler de foi de ma part, peut-être il aurait fallu chercher quelqu'un d'autre qui en aurait parlé différemment, mais bon, vous allez voir, aujourd'hui c'est un peu différent encore, donc je vais essayer d'être fidèle au texte. Ce passage, il se trouve dans les trois synoptiques, hein. Mais Marc, vous voyez un peu la longueur des versets, Marc est le plus détaillé, bizarrement c'est l'évangile le plus court, mais c'est un épisode qui va détaillé de manière plus importante que Matthieu et Luc. Je ne vais pas vous donner toutes les finesses et les nuances. Simplement, dans Matthieu, ce qu'on apprend dans l'explication de l'échec. Hein, ici, lorsque les disciples demandent « Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser le démon ?», Jésus, lui, répond « Il ne sort que par le jeûne et la prière ». Et Matthieu donne un détail supplémentaire. Il dit l'échec, il est lié à trop peu de foi. Bon, c'est à peu près lié, mais il y a cette petite nuance. Le reste, vous verrez dans les références, je ne vais pas y revenir, c'est pas intéressant. Enfin, au moins pour ce qui nous concerne aujourd'hui. Marc, c'est le plus long et le plus détaillé. On va voir, en fait, chez Marc, il y a vraiment des pépites qu'on peut tirer de ce récit. Hein, et je vous rappelle ce point clé, c'est les disciples, ils ont voulu faire quelque chose, mais ils n'ont pas pu. Peut-être, ça vous est déjà arrivé, vous avez voulu faire quelque chose pour Jésus, vous avez prié pour quelque chose, puis vous n'êtes pas arrivé à le faire. Ben, les disciples, ils sont un peu comme nous. De temps en temps, on n'est pas parfait, on n'est pas Dieu, on n'arrive pas à faire certaines choses. Et donc, il faut bien s'interroger, mais pourquoi on n'y est pas arrivé? Parce qu'il y a peut-être des choses à apprendre. Voilà. Alors, très rapidement, le contexte. Le contexte, ben, je vous l'ai dit tout à l'heure, Jésus et ses disciples se sont séparés. Il y a Jésus avec trois disciples, Pierre, Jacques et Jean, ils sont montés sur la montagne où Jésus a été transfiguré, et le reste des disciples sont restés dans la plaine. D'accord ? Ils sont restés en bas, les neuf autres. Vous avez ici donc le détail. Et on verra que le groupe maintenant va se rejoindre dans la plaine, et ce contexte de la montagne et de la plaine est important. Il y a une thématique qu'on va interpréter aujourd'hui. Alors, si on regarde un petit peu les acteurs, finalement, quels sont les acteurs de cet épisode aujourd'hui ? Ben, il y en a pas mal. Il y a Jésus et les trois, hein, qui sont sur la montagne et qui redescendent. Il y a les neuf disciples. On nous dit il y a la foule. Il y a également l'enfant possédé. On a plein de détails. Hein. C'est Marc qui donne le plus de détails, et notamment par la bouche du Père, qui s'exprime énormément dessus. On sait qu'il est sourd et muet, qu'il sait depuis son enfance. Ce n'est pas facile d'interagir avec un sourd et muet, hein. Parce qu'il ne parle pas, et puis en plus, il n'entend pas ce qu'on lui dit. Hein. Et puis le langage des signes, ça n'existait peut-être pas à l'époque, ou pas de manière aussi performante qu'aujourd'hui. Et puis, il y a des scribes. Les spécialistes des Écritures, hein, ces fameux scribes. Et on verra que dans tout le passage, Jésus ne leur adresse absolument pas la parole. Pourquoi ? Parce que les scribes faisaient partie de ce groupe des... Enfin, c'était pas pareil, mais ils étaient dans le même sac que ces religieux pharisiens qui pensaient détenir le pouvoir. Et Jésus va les descendre, littéralement. Hein, je vous renvoie à Matthieu chapitre 23. Hein, ce fameux chapitre sur les malheurs. Hein. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Puis il y a toute la liste de tout ce qu'ils font. Donc Jésus ne leur adresse même pas la parole. Par contre, ce qu'on apprend dans le texte, c'est que les disciples sont en discussion avec eux. Et on verra que ça a de l'importance. Donc il y a les spécialistes, et puis il y a le père du démoniaque. Hein, le père du démoniaque qui va jouer aussi un grand rôle dans ce passage. Alors, si on va détailler un petit peu, on va se focaliser sur trois acteurs principaux. Hein. Les disciples, je vous l'ai mis là, c'est un langage un peu cru, mais ils sont complètement transparents, ils sont complètement à côté de la plaque. On leur demande de guérir un enfant, ils n'y arrivent pas. Et en plus, quand Jésus descend, ils sont en train de discuter avec les scribes. Vous voyez ? Et quand on discute avec des gens comme ça, et Jésus va être très clair avec eux, hein, il va les fustiger, hein, et il rentre dans ce qu'on appelle les discussions folles et inutiles. Hein, Paul va dénoncer ça. Fuyez les discussions folles et inutiles, ça n'amène que des querelles. Ils doivent discuter sur des éléments religieux, mais pourquoi je ne suis pas arrivé, machin. Puis les scribes doivent donner des conseils, ouais, mais vous comprenez, machin. De temps en temps, il faut savoir dans la vie arrêter des discussions qui ne servent à rien, notamment des discussions religieuses. Et les disciples n'ont pas pu guérir cet enfant. Alors ils discutent avec les scribes. Pourtant, ils avaient reçu l'autorité de Jésus de chasser les démons. Ils sont arrivés à chasser des démons, ils sont partis en mission, ils sont revenus tout joyeux en disant « on a fait des choses super ». Et là, ils calent lamentablement. Et dans notre texte, lorsque Jésus descend, les disciples sont tellement préoccupés à discuter avec les scribes pour essayer de trouver une solution. Ils essayent de chercher par eux-mêmes. On n'est pas arrivé. Peut-être qu'on n'a pas assez prié. Peut-être qu'on n'était pas assez à genoux. On n'a peut-être pas assez fait ci. On n'a peut-être pas assez fait ça. On pense à des recettes humaines. Et finalement, ils doivent tellement discuter avec les scribes et se laisser entraîner dans des discussions que lorsque Jésus arrive, il leur pose une question. De quoi discutez-vous ? Il n'y en a pas un qui répond. C'est qui répond ? C'est qui répond à la question de Jésus, de quoi discutez-vous dans le texte ? Regardez, c'est marqué dans le texte. Ben oui, c'est le Père. C'est le Père qui répond, c'est même pas les disciples. Jésus parle aux disciples. Il parle pas à la foule, il parle pas aux scribes, il parle aux disciples. De quoi discutez-vous? Et c'est le Père qui vient, qui va s'exprimer. Donc, les disciples, ils cherchent des solutions à leurs problèmes auprès de ceux à qui Jésus ne va même pas adresser la parole et qui va fortement dénoncer les scribes. Voilà, donc je passe sur les disciples, on y reviendra. Ils sont à côté de la plaque. Ça arrive de temps en temps d'être à côté de la plaque. Moi, ça m'arrive aussi. Et c'est intéressant tout ce qu'on peut en tirer. Alors, le deuxième acteur, c'est le Père. Alors, je lui ai donné un sous-titre pour vous aider à vous en souvenir. Je l'ai appelé « Tâtonnant mais exemplaire ». Pourquoi tâtonnant? Ben, il arrive vers Jésus et il l'appelle maître. Alors, c'est intéressant de voir sa progression. Maître, hein, c'est le grec didaskalos, hein, d'où on a tiré didactique. D'accord? Donc, ça veut dire enseignant. Donc, le Père, il voit Jésus comme un enseignant. Mais il y a des scribes autour. Donc, il se dit, ben, il y a les scribes, je connais bien les scribes, puis Jésus, c'est un enseignant de plus. Donc, vous voyez, l'image initiale du Père, c'est celle d'un enseignant. C'est intéressant parce que quand on regarde Nicodème qui a réfléchi, qui est un membre du Sanhédrin, un type instruit, comment il va appeler Jésus? Il va lui dire « Rabbi, nous savons que tu es un didaskalos venu de Dieu ». Donc il lui dit deux choses, Nicodème. Il lui dit « Rabbi » et il lui dit « Tu es un enseignant venu de Dieu ». Donc il utilise le même mot « enseignant », mais il rajoute le mot « Rabbi ». Et « Rabbi », c'est intéressant parce que c'est un mot hébreu, et la racine hébraïque du mot « Rabbi », c'est le mot « Rab » qui signifie « abondance ». Hein? Et en hébreu, rab plus le rabbi, c'est vraiment le quelqu'un qui est très grand. Donc c'est le très grand qui a de l'abondance. Donc vous voyez, l'image de Nicodème, elle est différente déjà. Elle ne voit pas Jésus comme juste un enseignant lambda, elle le voit comme quelqu'un qui est élevé, qui déverse de l'abondance, c'est ce que Jésus dira, hein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, il a l'abondance, l'eau vive, etc. Enfin, vous voyez la différence de perception entre Nicodème et ce Père. Ça, c'est très important. Parce que le Père, lui, au moment où il arrive vers Jésus, il le voit comme un enseignant de plus. Mais comme il a échoué avec les disciples, il a entendu parler de Jésus, il a entendu parler des miracles. Bon, il le voit comme un enseignant, peut-être un enseignement plus. Voilà. On verra que c'est important parce que la manière avec laquelle on regarde Jésus, la manière avec laquelle on voit Jésus, la manière avec laquelle on répond à la question que je vous ai posée au début, va conditionner le type de foi et donc la clé de ce passage. Alors, il y a quand même un point positif pour lui, c'est que c'est lui qui répond en premier. Jésus pose une question aux disciples et c'est lui qui répond. Au verset 17, on apprend, le Père, c'est Jésus qu'il est venu voir. Alors, il est venu voir Jésus, mais comme Jésus n'était pas là, ben, il s'est tourné vers les 9 disciples. Et dès que Jésus va poser cette question, c'est lui qui s'empresse de répondre. Donc, on voit qu'il y a un espèce d'élan. Il a une image initiale de Jésus, mais il a quelque chose en lui qui va le pousser à venir implorer la grâce de Jésus. Et Jésus, il est formidable. La manière avec laquelle il va l'aborder, vous voyez, il va lui poser des questions progressives. Et donc, le Père va déverser un petit peu plein de détails, mais absolument incroyables, qu'on ne retrouve ni dans Matthieu, ni dans Luc, parce qu'il va s'exprimer. Et en même temps qu'il va exprimer sa douleur, sa souffrance, la condition de son fils, je ne reviens pas là-dessus, mais regardez dans quel détail il va décrire en fait l'état du fils. Et il implore ensuite, une fois qu'il a décrit sa condition, hein, il implore la grâce, si tu peux, quelque chose. Et là, Jésus va avoir une attitude remarquable, un peu comme la femme atteinte d'une perte de sang. Vous en souvenez, la femme atteinte d'une perte de sang, Jésus va l'obliger à venir témoigner. Pourquoi? Parce que, bon, premièrement, il voulait déjà donner un exemple à Jaïrus et à ses disciples, mais en plus, il va l'amener ici à exprimer, en fait, il va pousser sa foi un petit peu plus loin. Hein? Comme il l'avait fait donc sur la femme atteinte d'une perte de sang, pareil pour la femme cananéenne. Vous en souvenez, la femme cananéenne, il lui a posé des questions un peu provocatrices pour que la femme cananéenne aille au bout de sa foi. Donc Jésus, en fait, il voit quelqu'un qui a une image un peu limitée de lui et il va le travailler, si j'ose dire, pour l'amener à aller plus loin sur la perception de Jésus. Et vous voyez, l'écriture, quand on lit la Bible, si on la lit de manière attentive, en faisant attention aux questions, en faisant attention aux choses extraordinaires, eh ben, la Bible va avoir le même effet que Jésus a sur ce Père. C'est-à-dire, la Bible va nous pousser à aller plus loin, elle va changer notre image de Dieu, elle va nous amener à aller en profondeur, et elle va transformer notre être intérieur. Je ne peux pas vous l'expliquer mathématiquement comme ça, si ça ne se met pas en équation, ça s'expérimente. Lisez votre Bible, restez en communion avec Jésus tous les jours, c'est la clé aussi du passage, et vous allez voir comment la Bible, au travers de ses questions, au travers de ses exemples, va nous amener, parce que moi je suis dans le lot aussi, va nous amener à changer ma perception de Jésus. Et donc là, il amène le Père à la fois l'implorer et à confesser son incrédulité et son manque de foi suite à cette affirmation « Tout est possible à celui qui croit ». Et le Père, paf, il a une révélation, il dit « Oui, je crois ». Et puis tout d'un, il se rend compte de sa réalité. Il atterrit, il se dit « Mais oui, mais moi je suis un incrédule ». Voyez, et il exprime cette confiance, c'est quelque chose qui est profond au fond du cœur humain. Au fond du cœur humain, il y a cette espèce d'incrédulité, cette difficulté à croire, ce péché. Et puis en même temps, il y a cet orgueil de ne pas vouloir montrer, que, en vouloir me prendre pour le plus fort, de vouloir être Dieu comme Adam et Ève. Mais là, il exprime cette confiance qui vient du plus profond de son cœur et il crie « Viens au secours de mon incrédulité ». Et là, il fait un pas de géant dans la foi. Vous voyez, là, la perception de Jésus change dans sa tête. Et finalement, dans ce passage, ce père tâtonnant, c'est pour ça que j'ai mis qu'il est exemplaire, ben c'est lui le vrai disciple de Jésus-Christ. Hein, parce qu'il est indépendant du maître. Il est dépendant, il ne peut rien faire d'autre. Et il se met dans les bras de Jésus. « Seigneur, viens au secours. » Il ne lui demande même plus la guérison. Il dit « Viens au secours de mon incrédulité. Je sais que je suis incrédule. C'est mon incrédulité qui me bloque. Je ne peux pas aller plus loin. Viens à mon secours. » Il se met dans les bras du maître. Il est conscient de sa misère, de son impuissance. Hein, il se repent en quelque sorte de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de Jésus. Et Jésus, c'est des gens comme ça qui l'acceptent. Autant vous et moi, quand est-ce que Jésus nous a acceptés? C'est quand on est venu en disant « Seigneur, je ne peux rien faire. Je ne peux pas me sauver moi-même. Viens au secours de ma perdition. » Et Jésus nous relève. Et c'est comme ça que Jésus sauve, parce qu'il nous aime. Comptez sur Jésus seul. Il n'y a que sur Jésus qu'on peut compter. C'est pour moi, c'est le vrai disciple ici. Le Père, c'est le vrai disciple. Et puis, le troisième acteur, c'est Jésus. Alors là, c'est pareil, c'est peut-être vous allez m'en vouloir d'être provocant, mais il joue une partition absolument parfaite. Bon, je vous l'ai déjà dit, je ne vais pas y revenir parce que le temps passe. Hein. Et vous voyez, comme Jésus, il fait ce truc remarquable que j'ai vraiment du mal à faire, mais j'essaye quand même, je lui demande. Il est capable à la fois d'être hyper compatissant avec le Père, d'avoir le bon tact pour le pousser à confesser à la foi, et de l'autre côté, il va jouer un registre absolument dur vis-à-vis des disciples, il va fustiger leur incrédulité, race incrédule et perverse. C'est fou ça, il va dire à ses disciples qu'il aime beaucoup, avec qui il est tous les jours, il va leur dire race incrédule et perverse. Et ça c'est remarquable, parce qu'il faut savoir dans la vie chrétienne, dans l'Église, quand on est en autorité, il faut savoir être hyper compatissant avec les gens qui ont besoin de compassion, et il faut savoir fustiger quand ça ne va pas. Et ça, les gens qui sont drivers fait plaisir, hein, école de Paolo Alto, pour ceux qui connaissent, d'accord. Ceux qui ont un driver fait plaisir, ils sont très forts dans t'es super, t'es bien, bon, bravo. Et ils sont absolument nuls pour dire écoute, ça va pas, mon gars. Vous voyez. Et quand on a un déséquilibre comme ça, eh ben, ça veut dire que de temps en temps, il faut se prendre un coup de pied au derrière. Il faut des gens pour savoir donner des coups de pied au derrière. Donc il fait plein de choses, je n'ai pas le temps de m'étendre dessus, j'en ai un petit peu parlé déjà, mais il joue une partition absolument juste, avec les disciples, avec le Père, il menace le démon, il dit ce qu'il faut, il chasse le démon, et il répond avec patience à l'interrogation des disciples. Une fois qu'il les a dénoncés, il va être très soft, il va leur dire, cette espèce de démon, il sort que par la prière, certaines versions disent par le jeûne, et Matthieu, hein, je vous l'ai dit, il explique que c'est aussi une manque de foi. Donc Jésus, il agit sur plein de domaines, le questionnement, etc. etc. C'est remarquable. C'est vraiment un manifeste de communication. C'est pareil, quand Jésus rencontre la femme samaritaine, c'est absolument sublime la manière dont il s'y prend. Et moi, je suis un peu comme un éléphant. dans un magasin de porcelaine par rapport à lui. Comment est-ce qu'on peut interpréter ça? Le temps passe. Alors, trois choses à dire là-dessus. Ce passage, il s'inscrit dans la progression de la foi des disciples. Il faut qu'on s'élargisse, qu'on sorte du texte, parce que c'est important que vous compreniez ça. D'accord? Donc, trois choses, on va voir. On va voir comment la foi des disciples progresse, comment Jésus les enseigne. On va voir que, finalement, ce passage est une métaphore du temps présent. Et on va voir aussi la relation entre la foi et la prière. Et on terminera par des applications. Alors, la première chose que je voulais vous dire, la première fois, la progression... Oui, voilà, comme ça, vous avez tous les titres. Allez, on va regarder sur la progression de la foi des disciples. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les disciples avaient été confrontés à pas mal de choses concernant la foi. Hein. Il y a eu la tempête sur le lac, d'accord ? Il y a la femme atteinte d'une perte de sang, ça c'est Marc 5, pour ceux qui prennent des notes, sinon on pourrait faire une photo d'écran après. Il y a aussi donc la résurrection de la fille de Jaïrus en 5:36. Il y a l'épisode de la femme cananéenne, d'accord ? Là où il lui dit « à cause de cette parole, va, ta foi t'a sauvé ». Donc les disciples, ils ont assisté à tout ça. D'accord, ils ont eu des leçons de foi à chaque fois. Et puis, il y a une deuxième situation lorsqu'ils sont sur le lac, d'accord, en 6:45, hein, c'est quand Jésus marche sur les eaux et qu'ils ont peur, ils poussent des cris, Jésus leur dit « n'ayez pas peur ». Donc, vous voyez, il sait être tendre, Jésus, quand même. Hein. Donc, mais là, on a un nouveau test de foi pour les disciples et même pour le père de l'enfant, hein, on l'a déjà vu. Il y a un test pour le père, et on l'a vu tout à l'heure, le père va réussir ce test parce qu'il va se rendre compte de son incrédulité, il va, entre guillemets, la confesser, et Jésus eh bien, va guérir son fils. Et les disciples, on verra qu'ils sont, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Peut-être ils ont été présomptueux, vous savez, quand on a réussi quelque chose dans la vie chrétienne, on se dit, tiens, ça va le faire pareil. Ils ont déjà chassé des démons, donc ils se sont dit, cette fois-ci, les doigts dans le nez, Jésus n'est plus là, mais ça ne fait rien, nous on y arrive parce qu'on y est déjà arrivé. Ils sont arrivés cool, ils n'ont peut-être pas prié, un peu comme Josué quand il part à la conquête de Haï, il ne fait pas attention, allez, il n'y a pas besoin d'envoyer toute l'armée, il ne consulte pas l'Éternel et il se prend une gamelle. Voilà, peut-être il y a eu de la présomption chez les disciples, et comme ils n'y arrivent pas, ils se disent, tiens, on a les scribes, finalement, ils ne sont peut-être pas si mauvais, on va discuter avec eux, on va peut-être trouver une solution à vue humaine. Hein. Et c'est comme ça que finalement on se fait embarquer. Et là, Jésus va être, comme je vous l'ai dit, très dur. Il va s'impatienter, il va les fustiger littéralement sur leur manque de foi. D'accord ? Donc vous voyez que les disciples, ils auraient dû, mais ils n'ont pas pu. Et ça arrive dans la vie chrétienne. De temps en temps, on se prend des gamelles. Il faut savoir revenir à Jésus, lamentablement, dire « Seigneur, tu vois, j'ai essayé de faire sans toi, là je me suis entêté, je pensais que, etc. » Parce que Jésus accepte toujours la repentance. Toujours, on peut toujours revenir à Jésus. C'est ça qui est formidable avec lui. Deuxième interprétation. Bon, il y a le texte là. J'avance. Deuxième interprétation, ce passage, finalement, c'est un peu une métaphore du temps présent. C'est une métaphore de l'époque dans laquelle on vit. Vous voyez, d'un côté, il y a la montagne. La montagne de transfiguration, c'est la gloire. C'est la nuée. Jésus qui partage sa gloire avec trois disciples. Il y a deux héros de la foi, deux géants de la foi qui apparaissent, Moïse et Élie. D'accord ? Et puis, il y a le témoignage du Père hein, qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Donc, vous voyez, d'un côté, on a ce monde parfait, ce monde qu'on attend en espérance, dont Nasser nous a parlé. Et puis, de l'autre côté, on a la montagne, on a la vallée. La vallée, c'est les ténèbres, c'est la maladie, c'est l'impuissance, c'est l'incrédulité, c'est l'impossibilité, les limites, les controverses, les discussions inutiles, tout ce qu'on a dit finalement. Et il y a deux mondes aujourd'hui qui s'opposent. Il y a le monde céleste, c'est le monde à venir, c'est le monde auquel on aspire, qui existe. Jésus montre un tout petit aperçu de ce que va être l'avenir dans le futur. Mais aujourd'hui, malheureusement, on est dans ce monde-là. On est dans le monde de l'incrédulité, de l'impossibilité. Nous-mêmes, on est incrédules. Moi, je suis parfois incrédule. Hein, incrédule, vous savez, là, il y a l'épisode dans le livre des Actes où Pierre est emprisonné. Hein, vous avez toute la maison qui prie avec ferveur, puis Pierre arrive, ils sont tellement étonnés. Mais non, mais attends, on priait pour toi et t'arrives, mais comment ça se fait? Vous voyez ce paradoxe, on est un peu comme ça. Et finalement, ce qui fait le lien entre les deux, c'est Jésus. C'est Jésus qui a dit « Le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Jésus est venu faire le pont entre ce monde mauvais voué à la perdition et ce monde futur auquel on aspire, dans lequel Jésus va nous emmener et dans lequel il nous a préparé une place. C'est lui qui fait le pont entre les deux. Et tout à l'heure, Nasser nous a présenté ce tableau « Attente ». C'est vraiment ça l'espérance. C'est l'espérance que Jésus va nous aider à passer d'un monde à l'autre, même si ici-bas on souffre encore dans ce monde. Eh bien, Jésus va nous aider à passer si on place, encore une fois, notre confiance en lui. Voilà, donc c'est une métaphore du temps présent, hein, ce double tableau. Et puis, le troisième point dont je voulais parler ici, eh bien, c'est la relation flagrante entre la foi et la prière. Et c'est pour ça que le passage de l'évangile de Matthieu rapporte que Jésus parle parce que vous avez trop peu de foi. Il insiste là-dessus. Alors, quelle est la relation entre foi et prière ? Comme j'ai dit, je vous l'ai dit déjà, lorsqu'on a vu la femme cananéenne, lorsqu'on a vu également la femme atteinte d'une perte de sang, lorsqu'on a vu Jaïrus, on pense que la foi, c'est quelque chose qui un jour va nous tomber dessus. Ah, on prie pour la foi. D'accord ? Comme si quelqu'un qui joue au loto, puis soudain, ah, il y a le bon numéro qui sort. Ben non, c'est pas ça la foi. La foi, c'est pas un truc qui va nous tomber dessus. Alors, c'est vrai que la foi est citée comme un don spirituel. Dans 1 Corinthiens 12, 9, pour ceux qui prennent des notes, il est dit que la foi est un don. C'est un don. Et l'apôtre Paul dit qu'il faut aspirer aux dons les meilleurs. Donc, si vous voulez, vous pouvez aspirer aux dons de foi, c'est biblique. Donc, la foi peut être donnée comme un don, c'est un don surnaturel qui est donné parfois de croire et de persévérer dans quelque chose où tout le monde lâche. Je me souviens, il y a une vingtaine d'années, quand on était à Grenoble, rue Casimir-Perrier, il y a eu une occasion d'acheter un local. Vous voyez, comme si nous, par exemple, on était là, et puis on achète un local 5 fois plus grand, avec plein de salles d'école du dimanche. Alors tout le monde a dit, oh, c'est impossible, on ne pourra jamais acheter ça, puis c'était un local à réparer et tout. Et puis il y a une personne qui a eu cette espèce de don de foi extraordinaire, qui nous dit, c'est là qu'on doit être. Et aujourd'hui, ils y sont, pour ceux qui connaissent l'Église. Mais il y a eu un don de foi extraordinaire qui a été donné à cette personne, pour persévérer, alors tout le monde disait « Mais non, mais c'est pas pour nous, on n'y arrivera jamais, c'est trop cher, il y a de la maçonnerie à refaire. » Enfin, vous voyez, c'était le truc impossible. Voilà. Bon, ça, c'est le don de foi. Mais la foi est citée aussi comme fruit de l'esprit. Ça, c'est dans le livre des Galates, la fruit de l'esprit, qui est même traduit par fidélité. Foi, fidélité, c'est la même racine latine, fides. D'accord ? Donc, et la foi, en tant que fruit de l'esprit, c'est vraiment la notion de persévérance, dans la durée, mais aussi de confiance. C'est la même racine, confiance, fidèle, foi. D'accord ? C'est la confiance en qui ? En qui ? Je pose la question. En celui en qui je suis en relation permanente. Mais si je ne suis pas en relation permanente avec Jésus au quotidien, si je ne le connais pas dans l'intimité, si je n'ai pas lu ses grandes œuvres dans les Écritures, si je ne l'ai pas vu œuvrer dans ma vie en regardant en arrière, en voyant sa main invisible dans tous les événements de ma vie, ben je ne peux pas placer ma confiance en lui. Je vous avais parlé des émotions et de la foi la dernière fois, je n'y reviens pas. Et c'est là qu'intervient la notion de prière. Et souvent, on confond prière et intercession. On va à la réunion de prière. Alors on arrive, chacun notre liste, un peu. J'arrive à Carrefour, oh, ben j'ai ma liste de courses, huile, beurre, fromage. J'arrive à la réunion de prière. Seigneur, je vais prier pour... D'accord ? Ben, la prière, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une liste de courses que je récite à Dieu. D'accord ? La prière, c'est beaucoup plus de ça. Ça, c'est l'intercession. Ça fait partie de la prière. C'est bien d'amener une liste, d'amener des bien-aimés. On a amené Marie-Angèle, on a amené Marc dans la prière, et Dieu a dirigé les mains du chirurgien de manière invisible. On ne sait pas, on le saura au ciel, comment Dieu a fait pour que vous soyez là ce matin. Ça, c'est bien. Mais ce n'est pas ça, la prière. Ce n'est pas que ça, la prière. La prière, c'est tout le reste, c'est la relation quotidienne avec lui, c'est l'adoration, c'est ce que Jésus a dit dans le Notre Père. Regardez le canevas du Notre Père, il y a des temps d'adoration, de louange, de confession, d'émerveillement, de silence et de requête. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ne nous soumets pas, ne nous laisse pas entrer en tentation. Et la prière, ce n'est pas que la liste que je vais dérouler devant Dieu, c'est tout la relation que je vais avoir avec lui. Et c'est là que je vais développer ma confiance au quotidien, dans la lecture de la parole. Et ça touche profondément à l'image qu'on va avoir de Dieu. Parce que si j'ai peu de relations avec Dieu, si Dieu se résume à une liste de courses de temps en temps, ben je vais être déçu parce que Jésus ne va pas répondre à toutes mes demandes. Il y en a qui ne sont pas légitimes, il y en a qui sont un peu tordus, il y en a qui sont justes. Donc Jésus va pas répondre. Donc s'il ne répond pas, je vais dire, tiens, Jésus, il répond une fois sur deux, une fois sur trois, je vais faire mes stats. Et puis je vais dire, de toute façon, moi, j'ai affaire à un petit Dieu. Hein, finalement, Jésus, il est comme moi, quoi. Il est un peu impuissant. Si j'ai peu de relations avec lui, c'est l'image que je vais avoir de lui. D'accord ? C'est l'image d'un Dieu limité. Peu puissant. Et puis, si je crée une relation intime avec Jésus au quotidien, là, ça va être différent. Parce que c'est ça la vraie définition de la prière. Je vais passer du temps avec lui, je vais apprendre à mieux le connaître, je vais lire les Écritures, et là, j'aurai une vraie image de Dieu. Pas l'image d'un petit génie de lampe que je frotte de temps en temps pour le faire sortir. Hey, tiens, voilà ma liste de courses. Je suis un peu provocateur, excusez-moi, mais ça permet aussi de réfléchir sur comment j'agis au quotidien. Et croyez-moi, je me pose la question et je me la suis posée. Je me suis remis en question sur plein de choses aussi par rapport à ça. Donc si j'ai cette vie de prière que Jésus avait avec son Père, hein, et là encore une fois, Jésus nous donne un modèle. Hein, la seule chose qu'il ne faisait pas, c'est confesser ses péchés. Hein, dans le temps de prière, il y a le temps de confession. Bien sûr, Jésus n'avait pas besoin de confesser ses péchés. Mais si j'ai cette relation avec Jésus, alors je développe le fruit de l'esprit, dont fait partie la foi. Et mon image de Dieu change, elle ne devient pas l'image d'un Dieu limité, mais un Dieu infini, illimité, qui peut toutes choses. Un Dieu infiniment grand, qui est tout puissant. Et c'est pour ça que Paul, dans sa prière aux Éphésiens, priait pour les Éphésiens, « Seigneur, illumine les yeux de ton cœur pour que... il sache comprendre la grandeur surabondante de ta puissance qu'il a mise en action en ressuscitant Christ. » Et vous voyez, si les disciples avaient ça en tête, bien sûr, Éphésiens n'était pas écrit encore, mais si les disciples avaient cette image de toute puissance, ils auraient réussi à chasser le démon. Parce que ce n'est pas un problème de démon trop puissant, c'est un problème d'image d'un Dieu trop petit. Ils avaient une image d'un Dieu étriqué, d'accord, qui répond à tous les coups. On met 100 balles dans la machine et ça sort. Ils l'ont fait quand ils sont partis en mission. Ils se sont dit, on va remettre la même pièce, puis la même réponse va sortir. Non, la même réponse n'est pas sortie. Parce que Jésus voulait leur apprendre que la foi, elle naît de la prière et de la relation intime avec Jésus. Et si je comprends qui est Jésus, c'est comme le Père, je n'ai pas besoin de lui dire « si tu peux, Seigneur », mais je lui dis « si tu veux, Seigneur, tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire et je prie dans ce sens-là. » Et Jésus ne va peut-être pas toujours répondre, mais on va se plier à sa volonté. « J'ai fait plier ma volonté aux paroles de ta bouche », disait Job. Et ce même Job, c'est ça qu'il a compris. C'est exactement le même enjeu. Job, il avait une vision limitée au début. Il disait « Ah, moi je suis juste, donc Dieu doit me bénir. » C'était ça. Et il finit le livre, après tout ce temps de souffrance, il finit en disant « Mon oreille avait entendu parler de toi », c'est-à-dire « J'avais une image de toi, mais je me rends compte, je me suis complètement planté. Maintenant, mon œil t'a vu, parce que Dieu lui a fait voir pendant deux chapitres toutes les merveilles, la grandeur, sa puissance, etc. » Et il dit « J'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassaient. Maintenant, je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Vous voyez, Job, il a le même cheminement que le père de ce jeune homme atteint d'une démoniaque. Voilà, où j'en suis là, où je me rattrape. Voilà, il y a Jacques, c'est bon. Alors, je vais pas m'étendre, il y a des manuscrits qui parlent du jeûne, d'autres qui parlent pas du jeûne, je laisse tomber, c'est important, mais on peut pas tout dire. Alors, très rapidement, quelques applications, on va me dire « tu passes trop vite sur les applications ». Mais ce n'est pas grave, parce que si vous avez bien compris l'interprétation, les applications, ça court de source. Alors, dans une bonne exégèse, on fait l'application pour les disciples et ensuite l'application pour nous. Alors, qu'est-ce que les disciples ont appris ? Les disciples, ils sont peu conscients. Ils n'ont pas de conscience parce qu'ils ont besoin de foi, mais ils sont... La seule question qu'ils posent, c'est pourquoi on n'y est pas arrivé. Ils ne se confessent pas, enfin, ils ne demandent pas pardon à Jésus. Seigneur, on a lamentablement échoué. On comprend, on a manqué de foi et tout. Ils ne sont pas du tout conscients de ce qui se passe. Ils posent une bête question à Jésus, mais pourquoi on n'y est pas arrivé ? Vous voyez ? Donc les disciples manquent de conscience, donc nécessité de prise de conscience. Deuxième chose à dire, les disciples sont plus préoccupés par les choses d'en bas. Et ça me touche aussi. Ça me touche personnellement. Regardez, Pierre, Jacques et Jean, ils sont sur la montagne. Jésus est dans la gloire. C'est exceptionnel ce qu'ils ont vu. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont vu ça. Hein, il y a Paul qui a été ravi au sixième ciel, il dit, ou au troisième ciel, je ne sais plus. Mais il y a Moïse qui est monté sur la montagne. Hein, il y a un gros parallélisme ici entre Moïse, je n'ai pas le temps d'y revenir, mais entre l'épisode Moïse, le veau d'or, machin. Hein, le veau d'or, c'est ce qui se passe dans la plaine. Et Moïse qui se passe sur la montagne, la gloire. Bon, vous regarderez, vous réfléchirez. Hein, il y a une prédication encore à faire là-dessus. Mais les disciples, regardez, ils sont Pierre, Jacques et Jean, ils sont là-haut. Ils sont dans la gloire, ils voient Jésus. Qu'est-ce qu'il fait, Pierre ? Ah, dressons trois tentes. Bah, franchement, dressons trois tentes. Ils voient la gloire de Dieu, dressons trois tentes. On va rester ici, tiens, on va faire du camping. Sors le barbecue, le réchaud, les saucisses, et on va les griller. Mais vous voyez, ils sont préoccupés par les choses terrestres. Et les disciples, pareil, ils demandent à Jésus, mais pourquoi on n'a pas pu chasser ce démon ? Hein, Paul dit aux Colossiens, cherchez les choses en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est vraiment aussi... Vous voyez, les disciples, ils se sont plantés, mais ça nous aide. Parce que combien de fois je me plante, que je cherche les choses d'en bas, que j'essaie de trouver des solutions à vue humaine, je discute avec les scribes et tout, je prends des avis complètement bidons à droite et à gauche, alors que la solution, elle est en Jésus. Troisième application pour les disciples, ils ont besoin d'affiner leur image de Jésus. Ça, c'est important. L'image de Dieu, c'est quelque chose, vous voyez, dans les accompagnements moi, que je fais dans le discipulat émotionnellement sain, je me perçois à quel point les gens ont une image faussée de Dieu. Hein, on n'a pas la vraie image de Dieu. Et donc, on avance dans la vie avec l'image de Dieu qu'on a, et si l'image est faussée, ben, on avance de manière bancale. Et les disciples, vous voyez, ils ont reconnu que Jésus était le Messie, ça c'est sûr. Hein. Ils ont vu Jésus sur la montagne, au moins pour trois, mais ils ont du mal encore à comprendre la relation d'intimité avec le Père. La preuve, c'est qu'en Marc chapitre 1, quand Jésus va à l'écart, il sort le matin très tôt pour aller prier, ils vont le chercher, au lieu de dire « Ah super Jésus, c'est bien ce que tu fais là, apprends-nous comment tu fais pour être en intimité avec le Père », il lui dit « Tous te cherchent, dépêche-toi, il y a plein de malades à guérir ». Vous voyez, ils ont les yeux tournés vers les choses terrestres. Donc ils avaient une vision limitée. Oui, Jésus, Messie, mais ils ne comprenaient pas le Messie souffrant. C'est ce qu'on va voir dans les passages qui vont venir maintenant. À partir de là, Marc, Jésus va commencer à dire à ses disciples qu'il doit partir, mourir, souffrir, et mourir sur la croix. Et la Bible nous dira, et les disciples ne comprenaient pas. Eh oui, parce que l'image de Dieu, elle se développe en intimité avec le Messie. Alors, rapidement, quatre applications pour nous. Qu'est-ce que je fais là ? Ah oui, non, je vais en arrière, là, zut. Quatre applications pour nous, et je vous laisse. Que les enfants ont froid dehors. J'ai bien conscience qu'ils ont froid. Hein. Ah, voilà, application pour nous. Ah, ça, c'est une image que j'aime bien. Donc, vous voyez, vous allez tout comprendre. Tout est dans cette image, hein, dans l'application pour nous. Voilà. En qui je place ma confiance ? Se jeter dans les bras de Jésus. D'accord ? Parce qu'on peut, comme les disciples, on peut vouloir, mais pas pouvoir. Hein, et ne pas compter sur des moyens humains, mais sur la puissance de Dieu. De temps en temps, il faut lâcher prise dans une situation où on n'y peut rien. Il faut se jeter dans les bras de Jésus et lui dire, Seigneur, bah, tu vois, je suis complètement incrédule, je suis à côté de la plaque, j'y arrive pas. Je suis en train de m'empêtrer là, je suis trop sur Netflix, trop sur mes messages, réseaux sociaux, Seigneur, j'en peux plus, viens-moi en aide, aide-moi à recoller à la parole. Vous voyez, il faut lui demander des choses comme ça, Jésus il accepte ce genre de prière. Donc, en qui je place ma confiance, première question. Deuxièmement, c'est comment je vois Jésus, on l'a déjà vu. Est-ce que je le vois comme un enseignant, juste qui m'apporte de la connaissance ? Est-ce que je lis ma Bible pour avoir de la connaissance ? C'est super, parce qu'après, les repas de fête du 31, là, quand on fait les quiz bibliques, là, on en met plein la vue à tout le monde. Mais ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien. Hein. Quand on lit la Bible, c'est pour connaître vraiment qui est Jésus. Hein. Ce n'est pas pour en mettre plein la vue à tout le monde de savoir qui a construit, je ne sais pas quoi. On s'en fout de ça. Voilà. Donc, comment est-ce que je vois Jésus ? Est-ce que je le vois comme cet enseignant, hein, ce didaskalos, ou comme je le vois, comme le Dieu Tout-Puissant qui peut tout dans ma vie. D'accord ? Troisième application pour nous. Est-ce que Jésus, je suis un peu provocateur ce matin, mais bon, c'est pas grave, ça fait du bien de temps en temps de se prendre un coup de pied au derrière. Est-ce que Jésus est en train de s'impatienter face à mon incrédulité ? Posez-vous cette question, je me la suis posée. Parce que l'incrédulité, c'est un péché aux yeux de Dieu. C'est un manque de confiance vis-à-vis du Dieu Tout-Puissant qui peut tout. C'est rabaisser Dieu à quelqu'un qui est limité, alors qu'il ne l'est pas. Vous voyez, les Hébreux, par exemple, le peuple juif a erré 40 ans dans le désert à cause de son incrédulité. C'est pas rien, 40 ans. Toute une génération est morte à cause de ça. Ou est-ce que je suis comme ce père qui est résigné face à un fils qui est malade depuis son enfance et qui, à un moment donné, a un sursaut de foi en disant « Seigneur, viens au secours de mon incrédulité, je ne peux pas ». Il faut beaucoup d'humilité pour ça. Il faut confesser tout cela à Jésus et restaurer cette relation d'intimité. Et puis la quatrième question que je vous laisse, vous pouvez faire un screenshot si vous voulez, comme ça, ça vous remémore tout ça. Quelle est la nature de mon intimité avec Jésus ? On a vu que la clé, c'était que les disciples ont voulu, mais ils n'ont pas pu, parce qu'à un moment donné, ils n'avaient pas une intimité suffisante avec Jésus pour placer totalement leur confiance en lui. Croire en Jésus, c'est l'équivalent, c'est égal, placer sa confiance. Celui qui croit en moi, dit Jésus, celui qui croit en moi, c'est celui qui place sa confiance en moi. Quel est le degré de mon intimité et de la manière avec laquelle je place ma confiance en lui ? Voilà, on va prier. Notre Dieu, merci pour ce texte qui nous éclaire. Merci pour ta sagesse d'aborder ce Père de manière parfaite, de dire ce qu'il fallait dire aux disciples. Merci aussi pour l'exemple de ce Père qui a été exaucé, qui nous enseigne au même titre que la femme cananéenne, que la femme atteinte d'une perte de sang, que Jaïrus, tous ces exemples que tu as placés. Toutes ces choses, nous dit ta parole, ont été écrites pour notre instruction, afin que par la patience et la persévérance que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Merci pour l'espérance que tu nous donnes, Seigneur, de cette vie éternelle, future. Amen.